Alors, nous continuons maintenant notre série sur le livre de l'Apocalypse. Et on avait commencé une séquence sur les lettres que le Jésus ressuscité dicte au prophète emprisonné qui s'appelle Jean. Il dicte 7 lettres aux églises d'Asie mineure. Ça, c'est dans les chapitres 2 et 3. Ces 7 lettres, on a vu que c'est pour les chrétiens, en fait, de tous les temps. Et pas seulement pour les chrétiens de ces 7 églises-là. Le chiffre 7 symbolise la totalité. Oui. Oui, il faut appeler la personne et s'assurer que tu as un contact et puis m'amener ton téléphone. Oui. Alors, le 7 symbolise la totalité. Donc, c'est un message pour tous les chrétiens de tous les temps, toutes les églises. Et par ailleurs, il y en a des églises qui reçoivent un message plutôt négatif. Et d'autres, comme celle qu'on va voir aujourd'hui, l'église de Philadelphie, qu'il n'y a qu'une affirmation de qui continue de faire ce qu'ils font. Ils reçoivent plutôt des compliments du Seigneur. Et les deux sortes de lettres sont pour nous tous. Des fois, on a besoin d'être corrigé par le Seigneur. Des fois aussi, on a besoin d'être encouragé à continuer ce qu'on est déjà en train de faire, parce qu'il est fier de toi, il est fier de nous. On ne fera pas toutes les 7 lettres, parce que sinon, on finira le livre de l'Apocalypse. Peut-être que l'Apocalypse aura déjà eu lieu dans la vérité. Alors, on va seulement faire 3 lettres. On va faire la deuxième aujourd'hui. Et par contre, il y a une théorie que je voulais vous montrer, que, voyez-vous, les 7... Patmos, c'est là où est l'auteur. Il est en exil ici, sur cette île. Ceux qui ont déjà fait du tourisme dans la mer Égée, puis en Grèce, peut-être vous avez déjà été, je ne sais pas. Mais de là où il y a les églises, c'est en Turquie aujourd'hui. Et voyez-vous, les 7 églises nommées, ça fait comme un arc ici. Et donc, il y a une théorie qu'une fois que Jean a fini d'écrire son livre, il a donné le rouleau à un envoyé, et l'envoyé a fait le circuit des 7 églises pour lire le livre en entier. Et les 7 églises qui sont dans les chapitres 2 et 3, il y a un message spécifique pour chacune d'entre elles. On avait vu Éphèse il y a 3 semaines, avant la tempête de neige, vous vous souvenez peut-être. Et aujourd'hui, on va voir Philadelphie. Pas Philadelphie aux États-Unis. Le premier Philadelphie qui est en Asie mineure, qui a un autre nom aujourd'hui. On verra la Odyssée bientôt aussi. Mais c'est juste une théorie, on n'est pas sûr s'il y avait un envoyé qui a fait le tour, mais c'est quand même intéressant ce circuit où déjà au début de l'Église, l'Évangile se répandait, puis des églises étaient formées dans les grandes villes un peu partout et même en Asie mineure. Alors, je voulais dire un petit mot anecdotique sur la lettre à Thyatire, qui est la ville qui est là, la ville 4 ici. Il y a un verset, ils se font chicaner parce qu'ils sont tolérants d'une personne qui, semble-t-il, est un faux prophète, une dame qui enseigne d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, et l'Église ne fait rien pour l'arrêter. Alors, Jésus dit à l'Église de Thyatire, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel. » C'est peut-être un mot symbolique, parce que Jézabel est une femme très, 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 très méchante de l'Ancien Testament. Donc, en tout cas, « Tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse, elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mange des viandes sacrifiées aux idoles. » Bon, on n'a pas le temps de décoder tout ça. Peut-être, c'est possible que l'immoralité sexuelle, c'est carrément, littéralement ça qu'elle enseignait, la promiscuité sexuelle. Mais peut-être c'est une image aussi qui signifie la promiscuité spirituelle, où tu aimes, au lieu de t'accrocher à Jésus seul, bien, tu vas à toutes sortes de divinités et de superstitions qui étaient pas mal la norme à cette époque dans le monde gréco-romain. Il y avait beaucoup de divinités et ainsi de suite. Mais peu importe, je mentionne ce mot parce que, justement, dans une des lettres que notre frère Richard Nestor, alors celui pour qui on a prié tantôt, qui est devenu le pasteur du centre d'achat, et il me dit ceci, Marc, ça il m'a écrit ça le 13 janvier, Marc, que Dieu te donne une parole puissante et bénie vis-à-vis de ton enseignement dans le livre de l'Apocalypse. En parlant de ce livre, cela me rappelle le témoignage d'une porn star. Alors ça veut dire une vedette du cinéma pornographique, une star porno. Vous savez de quoi je parle. Le témoignage d'une star de porno qui a commencé à lire la Bible. Et c'était le livre de l'Apocalypse qui a tout changé. En lisant Apocalypse 2:20 au sujet de Jézabel, le verset qu'on vient de lire, elle s'est repentie. Elle s'est repentie et elle s'est confiée en Jésus-Christ pour le pardon et le salut. Aujourd'hui, elle est un pasteur et elle prêche le salut. Wow! C'est lui qui écrit ça. Wow! C'était sur la TV nationale. Quelle histoire! Marc, peux-tu remercier l'Assemblée de notre part pour leur prière pour nous? Merci. Alors, ouais, je suis béni. Je reçois des lettres de Richard, mais c'est pour montrer comment le livre d'Apocalypse touche les gens, et parfois les gens, on ne penserait pas. Et voilà qu'une personne très, très loin du monde des églises, c'est ce que j'imagine, se met à lire le livre d'Apocalypse et Jésus vient la toucher directement. Et voilà que sa vie est transformée. On va prier encore. On va prier pour Richard et que Dieu bénisse aussi la lecture de sa parole. Seigneur, merci pour Richard et Seigneur, ouvre nos oreilles pour bien profiter de la lecture du livre de l'Apocalypse. Il y a un verset justement au début qui dit « Bénis celui qui lit, bénis ceux qui écoutent ». Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons cette bénédiction, mais nous voulons surtout apprendre pour pouvoir changer nos vies selon ta volonté, Seigneur, avec ton aide. Amen. Alors, allons-y pour la lecture de la lettre aux Philadelphiens. Alors, pour ceux qui suivent dans leur Bible, c'est Philippiens 3, à partir du verset 7. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, Philippe. Pardon. Apocalypse 3, à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de Dieu, le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. Alors, comme j'ai dit, c'est la sixième des septièmes lettres. Elle est sans reproche, comme la deuxième à l'église de Smyrne. Alors, ce qu'on sait sur cette église à Philadelphie, c'est une petite église dans une grande ville établie depuis longtemps. Et apparemment, d'après ce que la lettre dit, elle a peu de ressources au niveau humain. Elle a peu de puissance. Mais apparemment, elle a une puissance spirituelle puisque Jésus est content avec leur persévérance. Ils tiennent bon. Et c'est vrai que souvent, les chrétiens, sans beaucoup de ressources humaines, les églises, dans des situations de fragilité humaine, souvent démontrent plus de puissance spirituelle et de résistance que celles qui sont riches. Moi, je me souviens qu'il y a eu le tremblement de terre à Port-au-Prince, en 2010, si je ne me trompe pas. Et nous, les Québécois, on regardait les reportages à la télé, la dévastation qu'il y a eu, les tragédies humaines. Et on voyait des chrétiens défiler dans les rues en train carrément de chanter des louanges de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ils priaient et ils annonçaient la souveraineté, la gloire de Dieu en plein dans le désastre. Et nous, on se disait, mais waouh, c'est comme, on est assis dans nos sofas en train de regarder ça, et nous, on ne louerait pas Dieu, on aurait plutôt tendance à ne plus croire en lui. Et on a vu la résilience, la force spirituelle de ces chrétiens qui souffrent et qui ont peu et qui ont tout perdu, en tout cas certains d'entre eux. Oh là là! Et on le voit aussi parmi nos frères africains qui vont venir ici. Et il y a un frère africain qui a dit une fois dans une conférence, il dit, vous là, les Nord-Américains, vous organisez vos ministères dans les églises comme si vous n'aviez pas besoin de Dieu. Et nous, on a tellement peu de ressources, évidemment. Chaque église africaine est différente, il parlait de lui-même. On a tellement peu de ressources qu'on commence en demandant à Dieu de prendre le contrôle. Ça nous avait un peu bousculé, mais je pense que c'est ça. On a besoin de se motiver les uns les autres, nous rappeler de ne pas mettre notre confiance dans la puissance humaine, mais de vraiment aller à la vraie source de puissance, qui est Dieu lui-même, qui est Jésus le Sauveur. Et ici à l'Oasis, on peut s'encourager mutuellement. Oui, certains d'entre nous, on est ici dans l'West Island, bien établi depuis longtemps, et dans un sens, on peut aider une personne qui vient d'un autre pays et qui est en train de rebâtir sa vie ici à Montréal. Mais toi aussi, tu peux m'aider. Toi qui viens d'arriver, je pense que cette dynamique-là de s'entraider comme des frères et sœurs qui veulent vraiment, on veut tous mettre notre confiance en Dieu, ben on va s'entraider à mettre le focus à la bonne place. Amen. On avait parlé de l'église d'Éphèse la dernière fois. Qui fait longtemps, parce qu'il y a eu une tempête de neige et un voyage. Et eux, Jésus leur a reproché quoi? Est-ce que vous vous souvenez? Ils ont perdu leur premier amour. Ils ont perdu leur premier amour. Et Jésus les a invités à remonter à la source du vrai amour qui est lui-même. Jésus dit, reviens à moi. et puis je vais redynamiser ton premier amour. » L'Église de cette semaine n'a pas ce problème. Alors, fait un peu cocasse, le mot « Philadelphie » veut dire en grec « amour du frère ». Alors, peut-être c'est le nom de leur ville qui leur rappelait de rester dans l'amour. Je ne sais pas. C'est juste une supposition, mais peu importe. Ils ont fait ça, et surtout, ils sont restés dans l'amour de Christ. Et on va voir trois thèmes qui sont dans cette sixième lettre. Les opportunités que Jésus donne aux Philadelphiens, la source qui leur rappelle, c'est toujours lui, hein, la source de l'amour, la source de la force. Et troisièmement, la mission qu'il leur confie. Hein? Les opportunités, la source et la mission. Alors, voilà. Aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous allez voir une nouvelle ville qui est par ici et derrière l'ancien site de la ville de Philadelphie. Ça, c'est en Turquie de l'Ouest. Et remonte à la source d'amour, les opportunités, la source et la mission. Alors, allons-y pour les opportunités que Jésus donne ou qu'il nomme dans sa lettre. Donc, il y a deux semaines, j'étais au service commémoratif de mon oncle Pierre de Banné, qui est décédé au mois de janvier. C'était un homme important dans la politique québécoise et canadienne. Alors, ceux qui viennent de Matane, ils l'ont eu comme député fédéral à un certain moment. Nos Matanois ne sont pas là ce matin, je les cherche, mais bon, bref. Et il a aussi été dans... Oui, c'est ça. Enfin, peu importe. C'était un homme avec une stature... une envergure, et pour dire que quand il rentrait dans un party de famille, bien, on peut dire, le party commençait, puis l'attention allait beaucoup vers lui, puis c'était un homme qui avait de la conversation, un homme charmant, et il avait toujours le bon mot. Et dans les éloges qu'il y a eu aux funérailles, une jeune dame d'à peu près 25 ans s'est levée. Je ne la connaissais pas. C'était la nièce par la deuxième femme de mon oncle Pierre. Elle a témoigné. Puis elle a dit qu'il y a eu un incident dans sa vie, un événement très marquant avec mon oncle Pierre. Elle était très timide, cette petite fille, quand elle était petite. Elle détestait les réunions de famille parce que tout le monde s'amuse. Les adultes parlent fort, ils s'amusent ensemble. Les enfants, ils s'amusent ensemble. Et elle avait de la misère avec connecter avec tout le monde. Elle était comme toute seule dans son coin. Et puis, Pierre, bien sûr, était le centre du party. Puis, elle était intimidée par lui. Puis, à un moment donné, à un de ses rassemblements, pendant que tout le monde était occupé, Pierre, discrètement, il s'approche de cette petite fille. Elle avait peut-être 6 ans, 7 ans. Il commence à parler avec elle, avec la petite fille. Il essaye de l'apprivoiser. Elle est gênée. Il sort de sa poche un paquet de gomme. Elle dit que c'était de la gomme ananas tropicale. Pour vous dire qu'elle se souvient vraiment. Il lui tend le paquet. Elle prend un morceau et elle commence à mâchouiller la gomme. Et puis, tout d'un coup, cette petite fille timide, elle se sent valorisée. Elle se sent connectée. Elle sent qu'elle est spéciale. Et qu'elle peut-être elle va avoir une relation avec cet oncle et pas n'importe lequel. Et ils ont commencé à développer une relation un peu spéciale. Elle avait hâte au rassemblement de famille, puis comme de fait, à chaque fois, il venait lui parler. Je ne sais pas si il redonnait de la gomme à l'ananas, mais en tout cas, ils sont comme devenus des amis. Et puis, ils ont même participé à des voyages de famille ensemble. Et c'est quelque chose qui a marqué cette fille jusqu'à ce qu'elle soit devenue une jeune femme. Et je l'ai trouvée très formidable, cette jeune femme, très, très articulée, comme on dit en anglais. Elle s'exprimait bien et elle était reconnaissante. Et ça, c'est une image pour moi de Christ, une image bien humaine de ce que Christ fait avec nous. Comme mon oncle Pierre a créé une opportunité pour cette petite fille d'être valorisée, eh bien, c'est ce que Christ fait pour chacun d'entre nous. Il crée des opportunités pour vraiment nous élever, nous qui nous sommes rabaissés par nos propres erreurs et juste par le fait qu'on fait partie d'une espèce rebelle qui s'appelle les Homo sapiens, qui se sont détournés de Dieu. Et lui, il est venu vers nous dans notre rabaissement et il vient nous élever et on devient en quelque sorte des princes et des princesses à ses côtés. Le verset 7 dit que celui qui a la clé de David, OK? Donc ça, c'est un élément des opportunités que Jésus nous donne, c'est qu'il nous ouvre le royaume de Dieu. Et il le dit aux Philadelphiens, il le dit à toi aussi. Dans l'Ancien Testament, il y a vraiment beaucoup de références à l'Ancien Testament dans le livre de l'Apocalypse. C'est pour ça qu'on continue à étudier ici à l'Oasis le livre de tout l'Ancien Testament. C'est pour mieux comprendre le Nouveau Testament, puisqu'il y a tellement d'allusions. Et ici, c'est Ésaïe, chapitre 22, où il est question de la clé de David. Ici, c'est donc le gérant du palais royal qui a la clé de David. C'est la manière de dire, c'est lui qui gère le palais. Ce n'est pas David le roi, mais c'est un descendant de David. Et là, il y a un gérant qui n'est pas bon, qui est peut-être corrompu, il s'appelle Shebna. Puis là, le prophète vient le voir et dit, je vais te remplacer par un autre. C'est Dieu qui lui dit ça. Et Dieu dit dans cette prophétie, ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, un autre, le fils de Hilkija. Je lui ferai enfiler ta tenue. Tu vas être obligé d'enlever ton uniforme et c'est lui qui va le porter. Et je lui mettrai ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la communauté de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer. Et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Je l'enfoncerai comme un piquet dans un endroit solide. Et il sera un trône de gloire pour sa famille. Est-ce que vous voyez un peu des ressemblances avec la lettre? Vous voyez que Jean, ou plutôt Jésus, quand il donne la lettre à Jean, mais il y a des allusions à quelque chose qui est déjà connu, c'est-à-dire le rôle du responsable administratif du palais royal dans l'Israël ancien et d'avoir la clé de David. C'est lui qui avait l'autorité de décider qui rentrait dans le palais, qui pouvait avoir un rendez-vous, une audience avec le roi, et ainsi de suite. Donc, quand Jésus dit « J'ai la clé de David », ça veut dire que c'est lui qui nous ouvre l'accès à la Jérusalem céleste, celle qui s'en vient. C'est lui qui nous ouvre l'accès à venir au pied du roi, le roi qui en fait est Jésus lui-même. Donc, c'est comme une promesse, promesse d'une opportunité, promesse d'un privilège. Qu'est-ce que Jésus fait pour nous en tant que responsable du royaume de Dieu? Il nous ouvre la porte du salut. Hein? Et il est question, quand je t'ouvre la porte, personne ne va la fermer. Je pense que c'est lié, entre autres, à la doctrine de l'assurance du salut. Si tu reçois Jésus comme ton sauveur et Seigneur, il te garde dans ta main, dans sa main plutôt, personne ne peut t'arracher de sa main. Une autre manière de le dire, quand il t'ouvre la porte du royaume, personne ne peut la fermer, dans le sens, te mettre dehors puis la refermer, non. Tu es invité, tu es inclus, personne ne peut t'arracher du royaume. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour cela? Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, on a une place solide. On a une place solide dans la Nouvelle Jérusalem qui s'en vient. Mais déjà, on le vit dans notre cœur. Il dit qu'il va faire de nous des piliers, des piliers. Alors, je ne sais pas, aller au vieux Montréal, les vieux bâtiments, les piliers, c'est comme ils tiennent le bâtiment, n'est-ce pas? Des fois, ils sont à l'extérieur, on les voit sur la terrasse d'en avant, le je ne sais pas comment dire, là, mais et ils sont solides. Et c'est comme pour dire, Dieu nous établit solidement, mais aussi les gens nous voient, on devient des témoignages. Au verset 11, Jésus dit qu'il nous donne une couronne. Et cette couronne, c'est une manière de dire, on va être victorieux. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire, on va être victorieux. On vit dans un combat. On a parlé de Satan tantôt. Et c'est vrai, il y a des anges qui ont été créés, qui se sont rebellés et qui veulent empêcher le plan de Dieu. Jésus les a vaincus à la croix. Ils ont déjà perdu le combat. Amen. Et en recevant nos couronnes ce jour-là, quand on sera au jour du jugement, eh bien, Jésus va nous dire, bravo, bravo, vous avez persévéré avec moi dans le combat jusqu'à la fin et vous êtes du côté gagnant. Ce n'est pas pour rabaisser les autres, mais Jésus certainement veut élever ceux qui ont eu confiance en lui. Les faux juifs en question du verset 9, la synagogue de Satan, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ce n'est pas nécessairement une critique des juifs selon la chair. Peut-être que ça l'est, mais à mon avis, et c'est le point de vue de plusieurs dans les ouvrages que j'ai lus, ça inclut toutes les religions, toutes les idéologies qui rejettent l'exclusivité de Jésus et le salut assuré de ceux qui ont mis leur foi en lui. Quelqu'un va peut-être dire, oui, mais Marc, toutes les religions sont bonnes. Du moment que ta religion t'amène à faire des bonnes actions, écoute, c'est bon, Dieu est content. Puis, donc, c'est comme peut-être un buffet sélectif que peut-être j'en prends un peu de Jésus, mais il y a Bouddha aussi, il y a un tel, et puis, mais finalement, c'est moi qui fais des bonnes actions, et puis je vais présenter ça à Dieu, puis Dieu va dire, t'es bon, bravo, rentre. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus l'a expliqué. C'est très important de comprendre que, selon Jésus, même si n'importe quel criminel est capable de faire des bonnes actions, donner un verre d'eau même à son partenaire de cellule en prison, et il faut dire, ça c'est bien, j'approuve ta compassion, ton amitié. N'importe qui d'entre nous est capable de faire beaucoup de bonnes actions, mais le problème, c'est qu'on est... On est esclave du péché à cause de la rébellion de la race humaine. Et on a besoin de recevoir le pardon qui vient de Jésus-Christ seul. On a besoin d'être libéré de cet esclavage du péché pour recevoir l'Esprit de Christ et être déclaré des enfants de Dieu. Et donc, il y aura toujours, pour chaque être humain, la nécessité exclusive de recevoir Christ. C'est très, très, très important. Donc, je dirais, les faux juifs du verset 9, c'est peut-être tous ceux qui croient qu'ils sont sauvés par leurs bonnes actions, parce qu'ils croient, en quelque part, qu'ils n'ont pas besoin de ce que Jésus a payé si cher pour leur offrir. Et là, ce que Jésus nous dit ici, ceux qui ont accepté ce sacrifice vont recevoir une couronne. L'autre point que je voulais mentionner, c'est le triple nom gravé sur moi. Alors, les images de l'Apocalypse, Jean les empile les unes sur les autres et c'est un peu bizarre. Alors, imaginez un pilier qui a une couronne sur la tête et puis trois noms gravés sur lui. Ça, c'est nous, ça. Les trois noms gravés, le nom de Dieu, le nom de Christ et le nom de la Nouvelle Jérusalem. Un peu comme si, bon, notre nouvelle citoyenneté va être gravée, puis en quelque part est déjà par la foi gravée sur notre front. Puis ça, ceux qui sont des nouveaux Canadiens ou ceux qui espèrent devenir des nouveaux Canadiens, je pense que peut-être ça peut venir toucher quelque chose. Crime que vous avez hâte d'avoir ce papier qui dit « Bienvenue, nouveau Canadien ». Est-ce qu'il y en a qui ont hâte de ça? Il y en a qui ont hâte. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà reçu puis qui étaient tellement contents de l'avoir, nouveau Canadien? Oui, hein? Oh, je le sais. Vous faites semblant que vous êtes indifférent, mais je sais que ce n'est pas vrai. Et je sais que ceux, et il y en a aujourd'hui parmi nous, que c'est difficile le processus. Et ils ont peur. Et je les comprends. Et il y a... C'est une grosse affaire de recevoir cette nouvelle identité, cette nouvelle citoyenneté. Mais c'est, je veux vous dire ce matin, il n'y a pas plus grande citoyenneté que tu peux avoir que d'avoir le nom de la Nouvelle Jérusalem inscrite sur ton passeport invisible. Amen. Amen. Alors, c'est pour consoler aussi ceux qui sont encore dans le combat avec Immigration Canada. On va continuer à prier pour le succès de vous tous. Amen. Mais heureusement, chacun d'entre nous, notre vrai problème, si tu as reçu Christ, ton vrai problème d'immigration, il est déjà réglé. Amen. All right, OK. Excusez-moi, je suis mélangé dans mes feuilles. Mais on va aller à la source. Donc, les opportunités et ensuite la source. La source, eh bien, c'est Jésus, encore une fois, comme l'autre lettre. Le verset 7 dit qu'il est le saint, ça veut dire qu'il est mis à part, il est pur, il est l'instrument de Dieu pour nous parler. En plus, on va découvrir qu'il est Dieu lui-même fait homme. Il est le véritable. Et ça s'applique au fait que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il enseigne, c'est fiable, c'est solide. Il se trompe jamais, Jésus. C'est véridique, c'est véritable. Et ça s'applique au salut qu'il nous promet, qu'il nous donne, et on en a parlé tantôt. C'est pas capricieux quand il dit « je t'ouvre la porte ». C'est vraiment du solide. Il dit ailleurs, dans l'Évangile de Jean, « je leur donne à mes brebis ». La vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Évidemment, il paraît qu'on peut faire une erreur absolument impensable de renoncer à ce salut. Peut-être parce que par amour du monde, peut-être par peur des difficultés de la vie chrétienne, peut-être par séduction de fausses idées, d'espoirs qui sont faux. Alors, il y en a qui vont dire, non, c'est impossible. Jésus me garde dans sa main, jamais il me permettra de faire cette erreur. D'autres textes qui sembleraient dire, fais attention, ne commets pas l'erreur. En tout cas, Jésus dit ici, ne laisse à personne de t'enlever ta couronne. Et il semblerait-il que le pire ennemi qu'on peut avoir là-dedans, c'est nous-mêmes. Alors, soyons attentifs à notre propre fidélité. Jésus nous donne une place solide. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Il dit, « Je ferai connaître que moi, je t'ai aimé. Moi, je t'ai aimé. » Et ça revient toujours à ça, que Jésus nous a aimés. Et c'est ici le centre de l'appel de Jésus, de revenir encore à lui, la source d'amour. C'est toujours ça dans le livre de l'Apocalypse. Avant de parler à d'autres personnes qu'ils sont aimés, Est-ce que toi, tu sais que Jésus t'aime, que Jésus t'a tellement aimé? Vous savez, il y a plusieurs mots pour amour dans la Bible. Et en grec, il y en a quatre. Il y a storgé, affection naturelle, eros, l'attraction amoureuse ou sexuelle, philos, l'amitié. Et il y a un autre mot qui, avant Jésus, était peu utilisé, agapé. Agapé qui veut dire la décision d'un être supérieur en puissance d'aimer quelqu'un d'inférieur qui ne le mérite pas. Et c'était l'amour agapé. Un peu comme mon oncle Pierre qui est allé vers cette nièce. C'est lui qui a décidé, « Hey, je vais aller vers cette nièce. » Il a eu compassion d'elle. C'était le grand qui va vers le petit, le puissant vers le vulnérable. Alors, c'est intéressant que ce mot-là était un mot un peu fade, peu utilisé avant que Jésus vienne. Et avec le Nouveau Testament, il y a une explosion de l'utilisation de ce mot-là pour amour, agapé. Et ça devient le mot pour amour le plus important. C'est comme si le mot attendait que Jésus arrive pour le remplir de son vrai sens. C'est merveilleux, non? Et donc, quand on lit la Bible, « Aimez-vous les uns les autres », c'est « agapé ». « Marie, aimez vos femmes. Femmes, aimez vos enfants. Aimez votre mari. » Agapé, c'est toujours « Je reçois l'amour gratuit, inconditionnel, agapé de mon Papa Céleste. » Et puis, lui me donne, je deviens comme un canal pour aimer la personne qui souvent est très aimable, mais peut-être des fois pas pantoute, et je l'aime pareil. Et c'est ça la vie chrétienne. Mais on ne peut pas le faire si on n'est pas connecté à la source. Cette semaine, prends un moment pour te connecter à la source. Prends 3 minutes où tu te mets devant Dieu, puis tu ne fais rien. Ne dis pas à Dieu, « Oh Seigneur, je m'excuse. » Ne dis pas, « Oh Seigneur, merci parce que j'ai pu faire ça pour toi. » Ne dis rien, mais juste sois miséricordieux ou miséricordieuse envers toi-même, comme lui, il l'est envers toi. Juste viens devant lui, reçois son amour, puis tu vas voir, ça va te faire du bien. Si 3 minutes, c'est trop long, fais 1 minute. Juste rien faire. Et reçois son amour dans la prière. Tu vas voir, ça va t'aider à être miséricordieux, à avoir d'amour pour ceux qui sont autour de toi. Ouais. On va aller au dernier thème, la mission. Je vois que le temps avance. C'est le troisième et dernier point, puis après, on va conclure. Une fois rempli de cet amour, une fois habitué à s'abreuver à la source, une fois instruit qu'il ne faut pas regarder à mes propres ressources, ma propre richesse ou mes difficultés, je suis prêt pour la mission. Cette mission, en tout cas pour les Philippiens, puis pour nous aussi, c'est persévérer. Persévérer. Tiens ferme dans ce que tu fais déjà, dans ce que tu as déjà. Garde une bonne perspective. Puis cette semaine, garde une bonne perspective quand les choses vont mal. Les souffrances sont nécessaires, mais elles sont courtes par rapport à l'éternité de joie que tu vas vivre. Oui, tu es dans une guerre, mais elle est déjà gagnée. Je pensais à ça. J'aime ça faire la vaisselle. Pour d'autres dans ma famille, la vaisselle, c'est comme une guerre. Ils détestent ça. Moi, j'aime ça parce que j'ai vraiment toujours cette vision. Quand ça va être terminé, ça va être beau, la cuisine. Puis le monde va être fier de moi. Et quand tu sais que c'est faisable, c'est déjà gagné d'avance, bien, il me semble que c'est un combat qui devient moins lourd. Et Jésus a déjà gagné le combat. Engage-toi dans la vie chrétienne. Puis quand tu as besoin de force, va à lui. Il y a ce Dieu invisible, il y a ce Jésus qui est derrière même les épreuves. Donc, on dit c'est Satan qui m'envoie une épreuve. on disait par rapport à même à notre sœur Louise, qu'elle a vécu vraiment des pensées suicidaires. On dit, ah, c'est l'ennemi. Oui, mais même derrière l'ennemi, ou au-dessus de l'ennemi, en tout cas, il y a le Dieu souverain qui ne te lâche pas, qui ne te lâche pas. Et donc, confie-toi en lui, même dans les grosses difficultés. Puis nous, comme Église, c'est quoi notre mission? Wow! On aurait beaucoup à venir à dire, mais venez le 10 mars, on va en parler à la réunion annuelle. Comment on voit notre travail? Mais je dirais, dans des mots simples, vivre différemment dans l'ouest de l'île. Vivre différemment dans un monde où, quand même, on est aux prises avec le matérialisme, la recherche des richesses, l'image, le succès. Vivre différemment, vivre avec d'autres, mettre de l'avant d'autres priorités à cause de Christ. Deuxièmement, nous aimer les uns les autres par-delà nos cultures. C'est quand même quelque chose qui reflète le combat que Christ a livré, puisqu'il est venu unir les peuples. Troisièmement, prendre soin les uns des autres dans une communion nouvelle que le monde ne connaît pas, une communion en Christ. Puis justement, le quatrième point que je voulais mentionner, garder la foi, être capable de dire « je crois en Jésus » dans un monde sceptique, mais qui a besoin d'espoir. Bon, alors, conclusion. Merci d'avoir patienté jusqu'à maintenant. Et la conclusion, où est-ce qu'elle est? Ah, c'est ça la conclusion. On a regardé la lettre aux Philadelphiens. Vous pouvez la relire cette semaine dans Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 7. Les opportunités que Jésus nous donne, la source qu'il est, et finalement, la mission qu'il continue à nous confier. Ma sœur, mon frère bien-aimé, Jésus continue de t'appeler. Remonte, boire à la source d'amour qui est Jésus lui-même. Pour terminer, célébrons cet amour en récitant cette doxologie qui est au début du livre de l'Apocalypse, au verset 5 du premier chapitre. Et c'est Jean qui s'exclame, et lisez avec moi, à celui qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Oui, le petit fois deux, c'est parce qu'on peut le chanter. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui connaissent? À celui qui nous aime. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? On essaie-tu? En tout cas, c'est les mêmes paroles. Alors, essayez de me suivre. À celui qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. Crescendo, il faut monter le volume. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Un autre amen, comme les chorales. Amen. Merci. Gloire à Dieu. J'invite l'équipe de louange à continuer ce que j'ai commencé là.